Ça ne marche plus. Je ne sais pas s'il faut mettre quelque... Ah là, super. S'il n'y a pas la souris dessus. Voilà, dernièrement, en parcourant quelques livres sur Internet, un ouvrage a attiré mon regard par le livre plutôt accrocheur ici. Je vous laisse le découvrir. Je ne l'ai pas lu, mais il semble que la conception que l'auteur a ici sur sa relation à Dieu est possiblement la même qu'à un bon nombre de chrétiens. Et je suis étonné de constater parfois la familiarité et la légèreté avec laquelle nous nous approchons de Dieu. Je suis étonné. Dieu est devenu un bon pote qui ne nous abandonnera jamais, un ami qui ne nous juge pas et qui en plus a des super pouvoirs. Et je m'interroge parfois sur notre manière de considérer Dieu, notre manière d'entrer dans sa présence, notre manière de lui parler, notre manière de nous habiller quand on vient à sa rencontre le dimanche matin, m'interpelle, me questionne. Dieu est devenu de quelqu'un de si familier que nous en avons oublié peut-être certains aspects de sa nature divine. On considère souvent Dieu comme notre ami, fidèle et tendre, on le chante, comme notre confident, et c'est une bonne chose, il est cela. Mais nous oublions possiblement qu'il est aussi un Dieu redoutable, saint, puissant. Et j'aimerais ce matin prendre quelques minutes pour essayer de nous encourager à rééquilibrer, si besoin est, notre conception du Dieu unique et véritable qui a changé nos vies. Il est bien plus que notre pote, c'est un Dieu saint qui ne tolère pas le péché et qui nous demande de faire de même. Et je nous invite à lire avec moi, je vous invite en tout cas à lire un passage de la Bible qui met cette vérité importante en avant. Elle se trouve dans la première lettre de Pierre, elle va s'afficher, mais vous pouvez suivre aussi dans vos Bibles. Chapitre 1, on va lire les versets 14 à 19. Hop là. Je lis là la parole de Dieu. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé saint, soyez saint dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saint, car je suis saint. Verset 17. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. L'apôtre Pierre, ici, base son argumentation et ses exhortations sur un fait important, sans équivoque. Et il trouve bon de le rappeler, de nous le rappeler, de le rappeler aux chrétiens de son époque, à nous aujourd'hui. Notre Dieu est un Dieu saint. Et au verset 15 et 16, Dieu est décrit comme celui qui nous a appelés et qui est saint. Dieu est totalement saint. Et dans l'Ancien Testament, cet attribut de Dieu était plutôt bien compris. Dès le chapitre 3, vous le savez bien, de la Genèse, sa sainteté, cette sainteté divine éclate. L'homme devenu pécheur ne peut plus se tenir dans la présence de Dieu. Il doit être chassé loin de Dieu, chassé loin du jardin d'Éden. Je pensais aussi à ce passage lorsque Dieu se révélera sur le mont Sinaï à Moïse et aux Israélites, sa sainteté sera de nouveau mise en évidence de façon fulgurante. Vous vous rappelez, seul Moïse et son frère Aaron sont autorisés à gravir la montagne, devenue sacrée. Pourquoi ? À cause de la présence de Dieu. Une frontière sera instaurée par Dieu tout autour de la montagne afin que le peuple ne se voit pas décimé, Exode chapitre 22. Et quand finalement un petit groupe y est autorisé par Dieu à monter, voici la description qu'ils font de Dieu. Ensuite, Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir ayant la pureté du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ses notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et burent. Cette sainteté est unique à Dieu. Il est le seul à être totalement saint, totalement sans péché, sans mal. Dans les livres de la Bible, qui oserait, Seigneur, refuser de te révérer et de te rendre gloire ? Car toi seul, tu es saint. Et toutes les nations viendront pour se prosterner devant toi, car il deviendra manifeste que tes actions sont justes. Non seulement Dieu est le seul qui soit saint, mais en plus sa sainteté est incomparable, inimitable. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Est-ce comme cela que nous voyons Dieu? Un Dieu proche, accessible, c'est vrai, gloire à Dieu, mais également un Dieu dont la sainteté est incomparable, unique. Notre vision de Dieu est-elle équilibrée, juste? D'ailleurs, plus nous allons comprendre et contempler la sainteté de Dieu, et plus nous allons nous apercevoir en comparaison la noirceur de nos cœurs et la répugnante odeur de nos péchés. Un regard renouvelé sur la sainteté de Dieu nous fait vite comprendre qu'absolument aucun être humain, personne, n'est digne de se tenir devant Dieu. Vous vous rappelez peut-être de ce moment où les Philistins, ennemis d'Israël, ont volé l'Arche de l'Alliance, symbole de la présence de Dieu, au milieu de son peuple. Et un grand nombre de Philistins sont alors tombés malades, si vous vous rappelez, ou sont morts. Citons par exemple ces 70 habitants de Beth-Shemesh, frappés par Dieu juste parce qu'ils avaient regardé à l'intérieur de l'Arche de Dieu. Et voici la juste question de ces habitants. Les gens de Beth-Shemesh dirent, mais qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et la réponse est, personne. Personne ne peut subsister en présence de Dieu. Face à la sainteté de Dieu, le péché de l'homme se voit alors comme un éléphant dans un couloir. Cette nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam et Ève et que nous entretenons bien, nous sépare de la présence de Dieu et rend impossible toute relation avec lui. Le prophète Ésaïe avait bien compris cela et nous saisissons avec lui alors le cri du désespoir qui jaillit de sa bouche lorsque Dieu arrive et se révèle à lui. Ésaïe, je m'écrirai malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Ésaïe avait une juste vision de son péché et de Dieu en comparaison. Et comme l'apôtre Pierre dans notre passage de ce matin, Ésaïe savait que Dieu est un Dieu saint et que le péché est une insulte à la sainteté de Dieu. La moindre faute est une offense terrible à la sainteté de Dieu. Le péché, aussi petit soit-il aux yeux humains, revient, comme l'a dit un célèbre théologien, à cracher au visage de Dieu. Et je trouve cette image-là vraiment parlante. Je vous invite à prendre quelques secondes pour visualiser cela. Je vous laisse imaginer, Dieu est là, devant vous, il vous sourit tendrement, il vous tend les bras pour vous accueillir, pour vous consoler, pour vous guider. Imaginez, vous vous approchez de lui, de son visage, et vous lui crachez dessus, encore, et encore, et encore. Trop souvent, nous minimisons nos péchés, nous minimisons la portée de nos péchés, de nos manquements et de nos désobéissances vis-à-vis de Dieu. Nous nous y accommodons trop souvent, possiblement. C'est en tout cas le triste constat que je fais de ma propre vie. Nous ne cherchons pas à nous en défaire le plus rapidement possible, souvent, parce que nous n'avons peut-être pas bien compris l'affront répugnant que représentent nos péchés vis-à-vis de Dieu et de sa sainteté. Un affront inscrit dans le cœur de chaque être humain qui rend alors impossible la paix avec Dieu. Nous sommes alors condamnés à vivre loin de lui, pour toujours. Personne ne peut se tenir devant la présence de Dieu. La seule possibilité serait que Dieu lui-même nous déclare saints, que Dieu lui-même nous mette à part pour lui. Et c'est là, mes amis, toute la bonne nouvelle hein, de l'Évangile. C'est justement ce que Dieu a fait. Nous relisons le verset 15 du passage de Pierre que nous parcourons ce matin. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Pierre met en avant le fait que Dieu exige que nous soyons saints, on va le voir dans la dernière partie, mais en même temps, il indique que notre Saint Dieu nous a appelés. Et dans la pensée biblique, cela signifie qu'il nous a attirés à lui. Il nous a appelés à pouvoir à nouveau marcher à sa suite, par lui, avec lui, en lui. Il nous a mis à part pour lui, il nous a déclarés saints, justes. Comment cela est-ce possible? Dieu serait-il revenu sur son caractère saint et juste qu'on a décrit juste avant? Aurait-il décidé de fermer les yeux sur notre péché? Oh que non. Cette nouvelle identité de saint, de mis à part pour Dieu, nous a été offerte par Dieu gracieusement en vertu de ce que le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, a accompli à la croix pour nous. On l'a célébré tout à l'heure. Quelqu'un a dû payer à notre place. Par Jésus-Christ, Dieu nous a sanctifiés. La colère que nous méritons, que nous méritions, que nous méritons, s'est abattue sur Jésus-Christ. L'affront de nos innombrables crachats au visage de notre Créateur a été lavé par Jésus-Christ. Exclus de la présence de Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ qui expie nos fautes, nous pouvons désormais par la foi être vus comme saints, irréprochables, justes. C'est extraordinaire, mes amis. Or, vous autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Verset 22. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable, sans faute devant lui. Lorsque nous nous repentons, et que nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu nous voit désormais au travers de son Fils, devenu alors notre Sauveur et Seigneur. Indépendamment de nos efforts, par pure grâce, Dieu nous déclare saints et nous met à part pour lui. Et désormais, sa sainteté, finalement, la sainteté de Dieu, le fait qu'il nous déclare saints, peut alors venir établir sa demeure en nous, parce que nous sommes mis à part pour lui, parce qu'il nous déclare saints. Il peut alors venir se tenir en notre présence par son esprit de sainteté. Au moment où nous acceptons l'œuvre rédemptrice de Christ pour nos vies, le Saint-Esprit nous fait revivre spirituellement. D'un statut de mort et de condamné au jugement, on passe de celui de justifié et de mis à part pour Dieu. On devient des saints pour Dieu, par Dieu. Le Saint-Esprit œuvre non seulement pour notre sanctification, c'est lui qui nous convainc de péché, de justice, de jugement, mais c'est aussi lui qui nous régénère et qui nous conduit dans cette nouvelle vie reçue, une vie que personne ne pourra jamais nous enlever. Il nous a sauvés, dit la parole de Dieu. Il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais il l'a fait conformément à sa compassion, au travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Sur la base de l'œuvre rédemptrice de Christ et par la présence sanctifiante du Saint-Esprit en nous, nous qui croyons, nous sommes rendus saints et appelés enfants de Dieu. Mes amis, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Sachez d'ailleurs que ce nouveau statut d'enfant de Dieu, saint, mis à part, est toujours offert d'ailleurs, par Dieu, à quiconque place sa confiance en lui. C'est toujours d'actualité. Et pour cela, rien de plus simple. Il suffit de nous humilier devant Dieu, de reconnaître sa sainteté et notre incapacité de nous tenir dans sa présence sainte. Ce constat fait, vous pourrez alors placer votre foi en Christ, lui qui a accompli le seul acte capable de nous sauver. Dieu promet alors, et c'est sa promesse forte pour nous, de vous sauver, de vous faire naître à une vie nouvelle, une vie radicalement différente. Par contre, et il faut le savoir avant de s'engager, cette vie merveilleuse que Dieu offre ne sera pas sans effort de votre part. Une vie de disciple de Christ exige des sacrifices, exige de marcher sur le chemin de l'obéissance. Et ce n'est pas toujours simple, ni plaisant. C'est merveilleux. Ah, c'est merveilleux. Mais ça coûte. Il faut être courageux pour être un disciple de Christ. Car bien que Dieu nous déclare saints, une fois pour toutes, pas de souci, on en a parlé, il nous demande de rechercher et de progresser en sainteté. Notre passage de Pierre appuie bien cela. On relit les derniers versets ensemble. Car voici ce que déclare Dieu, ce qu'il dit dans l'Écriture. « Soyez saints car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps qui vous reste à passer dans ce monde, manifestez par votre manière de vivre que vous le révérez. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent, comme l'argent et l'or. » Le verset 16 me semble plutôt clair. Pendant tout le temps qui nous reste à vivre dans ce monde, nous devons manifester par notre manière de vivre que nous craignons respectueusement Dieu, que nous marchons désormais à ses côtés d'une manière digne, d'une manière sainte. Et le verset 18 enfonce encore le bouchon en nous rappelant que nous avons été libérés de notre ancienne manière de vivre futile. Nous avons été libérés au prix de la vie de Christ. Et nous sommes appelés désormais à marcher d'une façon radicalement différente, pas un peu différente, mais radicalement différente. Une marche avec Dieu qui lui plaise, une marche avec Dieu qui l'honore. Cette marche dans la sainteté est une marche de toute une vie. C'est un chemin difficile, mais qui n'est pas optionnel. Continuer de vivre dans le péché en tant que chrétien, c'est aller à l'encontre de ce que Dieu a prévu pour nous. Attention, je ne dis pas qu'un chrétien authentique ne pêche plus. C'est faux. La parole de Dieu est claire sur le sujet. Bien que délivré du péché et de la condamnation associée au péché, ce dernier, le péché, continue de nous coller à la peau durant cette vie terrestre. Et croyez-moi, j'en sais quelque chose. Je connais bien mon cœur. Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas cohérent de nous accommoder du péché dans notre vie. La recherche de la sainteté, du rejet du péché dans nos vies, n'a rien à voir avec le salut que Dieu nous offre gratuitement en Christ, mais ça a à voir avec l'obéissance que Dieu attend de nous. On ne parle pas de salut ici, pas de problème, mais on parle de l'obéissance que le Maître attend de ses disciples. Une fois connecté à lui, une fois rempli du Saint-Esprit, Dieu s'attend à ce que nous faisons tous nos efforts pour rejeter le péché qui nous enlace si facilement. C'est une tâche difficile, mes amis, mais un véritable disciple de Christ doit être prêt à cela. Grâce à l'acte d'amour unique de Jésus-Christ, nous sommes libérés de l'emprise du péché. Nous n'avons plus à flirter avec le péché. Voilà donc la question fatidique. Y a-t-il en ce moment, dans votre vie, une situation de péché que vous devriez remettre à Dieu? Y a-t-il un péché bien loti dans votre cœur que vous tolérez depuis bien trop longtemps? Et je parle pas seulement des péchés fréquemment dénoncés, comme l'inconduite sexuelle ou l'esprit de division, mais également des péchés que nous considérons peut-être comme culturellement acceptables, compris dans nos églises. Le matérialisme, La colère, la jalousie, écoutez bien le suivant, le non-pardon, l'amertume, la critique sainte hein, chez les chrétiens, hein. Le bavardage malsain, l'irritabilité, l'ingratitude. L'ingratitude est un péché. Etc. Mes amis, il est temps d'arrêter de nous faire berner par Satan, qui nous pousse à croire que nous pouvons tolérer le péché dans notre vie sans que cela ait des conséquences sur notre relation à Dieu et aux autres. C'est faux. Le péché entretenu, non confessé à Dieu, est un obstacle qui vient brouiller notre communion et nous empêche de rayonner comme nous devrions le faire. Un chrétien qui reste enfermé dans le péché est un chrétien qui ne brille plus comme il devrait dans les ténèbres épaisses de ce monde. Satan ne peut pas nous enlever notre salut. Gloire à Dieu, Satan ne peut pas vous enlever votre salut. Mais il peut vous empêcher de resplendir pour Dieu. Mes amis, je refuse de ne pas briller pour Dieu. Je refuse de ne plus briller pour Dieu. Je refuse de ne pas rechercher la sainteté que Dieu me demande de vivre. Et pour cela, il n'y a pas d'autre moyen que de vivre jour après jour la repentance. Et le pardon que Dieu accorde. Pas d'autre moyen que de revenir au pied de la croix et de déposer régulièrement nos manquements, nos désobéissances. Alors c'est vrai, c'est douloureux, c'est pas facile. Lorsque nous nous repentons de tel ou tel péché, ça fait mal. Ça nous demande de nous humilier et ça demande aussi d'engager nos efforts en comptant sur Dieu pour ne pas recommencer. C'est difficile, ouais. Je le vois, hein. Pour moi, c'est difficile. Mais il n'y a pas d'autre alternative si nous voulons être saints comme Dieu est saint. Alors, je vous rassure, je sais que les enfants de Dieu ne sont pas encore arrivés à l'état de sainteté attendu par Dieu. Nous le serons parfaitement, uniquement, le jour où nous serons dans la présence de Dieu. Hein. Soit si nous y allons maintenant, soit le jour où il va revenir. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est que nous progressions dans cette sainteté que Dieu nous a acquise et qui lui a coûté tellement cher. Un disciple authentique de Jésus-Christ est un disciple qui choisit de progresser, qui choisit d'engager ses forces dans le chemin que Dieu donne dans sa parole. Le but étant de finir la course différemment que comme nous l'avons commencé. C'est un peu ça hein, la vie chrétienne, hein. J'espère que nous finirons la course autrement que nous l'avons commencée. Et nous pouvons déjà reprendre à notre compte les paroles qu'aurait prononcées John Newton, je vous le mets ici. Bien que je ne sois pas ce que je devrais être, ni ce que j'espère devenir, je peux affirmer véritablement que je ne suis pas ce que j'étais jadis. Aux côtés de nos efforts à fournir, heureusement, Dieu nous aide, il œuvre pour nous, il nous a laissé sa parole écrite afin que nous puissions nous appuyer dessus. Hein. Il faut méditer la parole, il faut la chérir, il faut la ruminer, c'est important. Le chrétien qui accepte humblement de se laisser travailler par la parole de Dieu progresse vers la sanctification. Hébreux chapitre 4. Et Dieu lui-même, par son esprit en nous, on en a parlé tout à l'heure, hein, il nous reprend, il nous façonne, il nous transforme. Et je crois que la présence de Dieu en nous, la présence du Saint-Esprit en nous, nous pousse à mettre en pratique la sainteté voulue et attendue par Dieu. Ne pas aspirer à cette vie-là, ne pas aspirer à une vie qui plaît à Dieu, ne pas aspirer à marcher quelque part dans une vie qui plus en adéquation avec ce que Dieu attend dans sa parole, je crois que ça peut peut-être nous alerter sur l'état de notre foi. Un auteur a écrit « Quand le Saint-Esprit entre dans notre vie, au moment du salut, Il a pour but de nous inculquer la sainteté en pratique. Si nous n'avons pas au fond de notre cœur une aspiration à mener une vie sainte qui plaise à Dieu, nous devrions nous demander sérieusement si notre foi en Christ est vraiment authentique. Bien-aimés, Dieu nous appelle à progresser dans la sainteté. Nous n'avons pas d'autre option. Pas d'autre option. C'est un chemin difficile. Mais, et je finis là-dessus, qui n'en demeure pas moins, merveilleux. « Soyez saints comme je suis saint », nous dit le Seigneur. L'apôtre Pierre, en reprenant cette parole du Lévitique, nous exhorte à vivre en conformité avec la nature sainte de Dieu, notre modèle à suivre. Ceci étant posé, et compte tenu du fait que le péché nous enveloppe si facilement, hein, on en a parlé, comme le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux au chapitre 12, il serait compréhensible de sombrer dans le découragement. Un regard avisé sur la grâce de Dieu est alors nécessaire. Nous avons tous des commandements divins auxquels notre cœur est particulièrement réfractaire. Ça vous parle, ça ? Des commandements que Dieu nous demande de vivre et que nous avons du mal, nous, personnellement, à vivre. On se repent, on pense avoir la victoire sur tel et tel péché. Et puis, hop, le voilà qui refait surface dans notre cœur. Ça vous parle ? Je suis le seul tordu ou il y en a d'autres qui sont tordus ? C'est décourageant, n'est-ce pas ? C'est décourageant. Il est important, mes amis, de ne pas sombrer dans le désespoir et de ne pas baisser les bras, mais de se tourner vers la croix et de reconnaître bouche bée que le péché que nous commettons pour la énième fois est lui aussi pardonné à nouveau et que nous sommes revêtus à nouveau de la justice de Christ. Satan prend un malin plaisir à nous accuser et à miner notre confiance en la réalité que Dieu nous pardonne abondamment. Ne le laissons pas faire. Nous avons été adoptés comme fils et filles, héritiers de Dieu. Non seulement rien ne pourra nous séparer de son amour en Jésus-Christ, mais encore il a le projet de nous rendre conformes à l'image de son Fils. Projet qu'il ne compte certainement pas abandonner en cours de route. Comment je sais ça ? Je sais ça parce qu'il le dit. En effet, j'en suis persuadé. Celui qui a commencé en vous son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour du retour du Maître. Dieu va achever lui-même l'œuvre qu'il a commencée en nous. N'est-ce pas une promesse merveilleuse ? C'est merveilleux. Oui, la progression dans la sainteté que Dieu nous demande de vivre est difficile. Oui. Oui, le processus de transformation que Dieu opère en nous est douloureux. Mais nous pouvons être sûrs, mes amis, qu'il ne va pas nous laisser dans cette situation. Il va lui-même parfaire l'œuvre qu'il a commencée en nous. Nous inondant de son amour et de sa grâce, en comptant sur nos efforts personnels, en comptant sur notre obéissance, Dieu va jour après jour nous tailler, nous polir, pour qu'on devienne les diamants qu'il a permis qu'on devienne. Je conclus. Nous avons vu ce matin que la Bible parle parfois d'une sainteté que nous avons en Christ, une fois pour toutes. Un statut de saint que Dieu nous offre en réponse à notre foi en Christ. Ok. Mais aussi, la Bible nous parle, peut-être que ça vous plaît moins, mais c'est comme ça, d'une sainteté qu'il nous faut vivre jour après jour. Et ces deux aspects se complètent et s'harmonisent bien. Et Paul, l'apôtre, l'écrira aux Corinthiens, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Christ Jésus, appelés à être saints. Comprenez l'équilibre, hein ? On est appelé à être saint, et parce qu'on est saint, déclaré juste par Dieu, et appelé à entretenir, à vivre cette vie sainte que Jésus-Christ nous a acquise. Par Christ, nous obtenons un statut de sainteté devant Dieu et nous sommes appelés à être saints dans notre vie quotidienne. Il vient bientôt le jour où, comme le souligne l'apôtre Pierre, où nous serons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, où la justice habitera. Ça arrive. Mais en attendant, efforçons-nous d'être trouvés par lui, purs et irréprochables dans la paix qu'il donne. Un peu plus loin, je finis avec une autre parole de Pierre. Nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes chers amis, dans cette attente, faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable à ses yeux, dans la paix qu'il donne. On va prier ensemble. Peut-être, comment est ton prénom ? Éléonore. Pour vous, juste Éléonore, va, si tu veux juste jouer un peu, on va juste prendre le temps de réfléchir un petit peu. Peut-être que Dieu vous met à cœur, peut-être de lui remettre, peut-être ce matin, quelque chose qui vous colle à la peau. Vous savez peut-être pas comment vous en sortir, mais déjà de le dire, de le remettre au Seigneur, lui demander pardon. Une église qui vit la repentance.